Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, j'ai à vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'Arène, l'émission d'information locale sur Canal B. Une émission qui est en direct aujourd'hui et au sommaire, on retrouvera l'info du jour, mobilisation des chauffeurs de taxi à Rennes ce lundi. Une interview avec Fanny Bunion, prochaine invitée du mardi de l'égalité à Rennes 2. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un reportage avec la Confédération Paysanne mobilisée sur un rond-point près de Rennes. Et puis, recommandation, une rencontre débat avec notre prix Albert Londres local. Bienvenue dans l'Arène. Allez, comme chaque jour, on commence l'émission d'information locale avec l'info du jour. Peut-être juste vous dire un mot sur cette prise d'antenne en direct, ce qui n'est pas une habitude sur cette émission, puisque c'est une émission qui est plutôt enregistrée d'habitude. C'est une façon de donner à entendre plein de voix différentes, pas toutes habituées au fait de parler devant un micro. Mais une fois par mois, on va maintenant se retrouver en direct, une histoire de goût du risque, et puis aussi peut-être d'accepter certaines imperfections en direct. L'info du jour, donc, retenue pour vous dans la presse locale, et aujourd'hui on parle de la mobilisation des chauffeurs de taxi à Rennes dans le cadre d'un appel national de la Fédération Nationale des Artisans du Taxi, que je ne connaissais pas. Ce lundi 29 janvier dans la matinée, ils étaient plus de 80 professionnels réunis près de la gare de Rennes et remontés, c'est le premier point, contre une nouvelle convention de l'assurance maladie. La signature, elle est prévue dans le courant de la semaine et pour une durée de 5 ans, donc sur cette convention, qui prévoit un transport sanitaire moins favorable qu'aujourd'hui pour ces chauffeurs de taxi. Autre motif de grogne, la prolifération des VTC à Rennes. VTC pour voiture de transport avec chauffeur, pour faire simple les Uber et compagnie. Dans un article du Télégramme, on lit qu'il y en aurait plus d'une centaine qui maraudent de manière illégale ici à Rennes, plus précisément autour de la gare et à proximité de l'aéroport. Et le résultat, c'est moins 20% de chiffre d'affaires selon Benjamin Petit, le président de la chambre syndicale des artisans taxis en Ille-et-Vilaine. Face à ce constat, une demande, la création, comme à Nantes, nous dit-on, d'une brigade de policiers formée pour contrôler les taxis. Allez, après cette info du jour, place à l'interview du jour. Fanny Bunion, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine et études sur le genre à l'Université Rennes 2 et vous serez l'invitée du prochain Mardi de l'égalité, un cycle de conférences mensuelles qui porte sur le sujet de l'égalité homme-femme, entre autres sujets. Et le rendez-vous est donné pour cette fois mardi 30 janvier à partir de 18h au Tambour. J'ai regardé, il y a plus de 10 ans qui ont passé depuis votre thèse qui portait sur la violence politique au prisme du genre à travers la presse française dans les années 70 à 90. En 10 ans, quels sont les sujets qui ont suscité votre intérêt en tant que chercheuse spécialiste de l'histoire des femmes? C'est comme ça qu'on vous présente.
En fait, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire des marges. Donc la question du recours à la violence politique, des formes marginales d'engagement, c'est-à-dire des femmes aussi qui s'engagent en politique avant que les femmes n'aient les droits politiques du point de vue juridique. Et puis aussi là, en l'occurrence, on s'est aussi intéressé à la régulation sociale des marges, à la forme de déviance, et alors, en l'occurrence ici autour de la sexualité.
Le sexe interdit, la sexualité des Français et sa répression. C'est le titre de votre dernier ouvrage qui est paru en 2002 aux éditions L'Iconoclaste. Et vous n'êtes pas seule à l'écriture, donc on présente tout de suite votre collègue.
En 2022, avec Pierre Fournier, qui est travaille aux Archives nationales et qui est un spécialiste de l'époque moderne.
Et donc il sera aussi présent mardi 30 janvier lors du Mardi de l'égalité organisé à l'Université Rennes 2. En fait, vous vous êtes rencontrés au départ sur un projet d'exposition il y a quelques années. Qui vous a amené vers ce sujet du sexe chez les Français, les Françaises?
En fait, avec Pierre Fournier, on a travaillé ensemble au montage d'une exposition qui s'est tenue en 2016-2017, qui s'appelait « Présumé EES coupable », qui s'est tenue aux Archives nationales autour des figures de femmes en justice. Et au cours de cette exposition, qui a eu un vrai succès, vraiment, qui a répondu à un intérêt du public, d'un public très, très divers, très large, on a écumé beaucoup de fonds d'archives et on a constaté que dans les affaires judiciaires, on posait quasi systématiquement aux femmes des questions relatives à leur vie privée, vie amoureuse, vie sexuelle, quand bien même ça n'avait rien à voir avec l'objet pour lequel elles étaient poursuivies, et que c'est des questions qu'on ne posait pas aux hommes. Donc c'est, en fait, le point de départ, il est là.
À quel moment vous vous lancez pour écrire un ouvrage qui est conséquent, en plus de 500 pages ?
Avec le Covid au milieu.
Ça donne du temps.
Ça donne du temps, mais ça a surtout ralenti le projet parce que les centres d'archives étaient fermés. Donc c'est un projet voilà, qui a beaucoup mûri, évolué. Et en fait, ce qui nous a intéressé, parce qu'il y a déjà plein d'ouvrages qui portent sur l'histoire de la sexualité, l'histoire de la répression autour de la sexualité dite déviante. Nous, ce qui nous intéressait, en fait, c'était de donner à voir les documents avec lesquels les historiennes et les historiens travaillent. C'est-à-dire de proposer des documents d'archives qu'on explique, qu'on commente, qu'on analyse et qu'on met en perspective avec l'histoire plus large, au-delà d'une affaire en particulier. Donc c'était ça, pour nous, l'intérêt, c'était de partir, en fait, et de proposer au public de voir des documents d'archives.
Et donc ces documents, vous êtes allé les chercher dans les cartons des archives nationales, mais aussi départementales, pour retrouver les traces de la sexualité des Français et des Françaises depuis la fin du Moyen-Âge et jusqu'à à peu près aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle. À travers quels documents, quelles sont ces traces laissées ?
Alors, les traces dont on dispose le plus, ce sont ce qu'on appelle les sources normatives, donc les archives qui posent le droit et qui du coup traitent aussi d'infractions au droit, des archives littéraires également, des archives aussi qu'on appelle les archives du fort privé, c'est-à-dire des correspondances, des journaux intimes aussi sur une période plus récente pour confronter justement un récit des individus face au cadrage normatif qui est proposé, donc, et puis aussi des sources médicales et puis des écrits de moralistes et de groupes qui ont pensé que la sexualité devait être et pouvait être un espace d'émancipation et de liberté.
Ce sont 70 documents en tout que vous montrez au public dans ce livre ?
Oui, alors ça a été très difficile de faire le choix, hein, donc on a essayé de balayer un panorama en fait thématique, de varier la nature des documents qui sont des documents manuscrits rédigés à la main et qui sont pour la plupart d'entre nous complètement illisibles, donc qui nécessitent une transcription, hein, ce qu'on appelle de la paléographie, des images qui proviennent de la peinture ou des photographies, des dessins, des comptes rendus d'audience également, et puis je disais des correspondances, des journaux intimes, voilà. Il y a vraiment une surabondance de documents parce qu'il y a en fait énormément de discours sur la sexualité et finalement peu d'espace pour exprimer la sexualité à la première personne.
Est-ce qu'on peut dire que dans le champ de l'histoire, la sexualité des femmes a peut-être pas toujours intéressé justement les chercheurs, vous qui êtes historienne spécialisée sur ce sujet-là ?
Alors, en fait, les historiennes et les historiens, surtout au début, puisque la féminisation de la profession est quand même plus récente, ont traité la question de la sexualité, mais plutôt sous l'angle des normes, sous l'angle de la répression, mais sans s'intéresser nécessairement au vécu. Si on prend les travaux de démographie, on s'intéresse forcément à une dimension qui a à voir, à un moment ou à un autre, à la sexualité. Donc le fait de penser la sexualité comme un objet d'histoire, c'est quelque chose qui s'est affirmé dans le temps, et puis de pratiques marginales, eh bien, qui sont devenues en fait un objet légitime et qui répond aussi à une attente sociale.
Alors la répression dont il est question dans le titre de l'ouvrage que vous avez écrit avec Pierre Fournier, cette répression, elle est à la fois judiciaire et religieuse. Comment est-ce qu'on peut un peu décrire l'évolution des normes sexuelles depuis le XIIIe siècle, puisque votre champ d'étude, il débute là. Il faut expliquer que ce n'est pas une histoire linéaire qui va juste de l'avant, qu'il y a des avancées, des reculs.
Effectivement, le sens de l'histoire, ça n'existe pas vraiment en dehors du temps qui s'écoule. En tout cas, il n'y a pas de progrès de l'histoire en la matière. Il y a un cadrage moral extrêmement fort en matière de sexualité sur toute la période en fait qui nous intéresse, même si ce cadrage il va évoluer et s'assouplir. Mais parce qu'il y a pour une raison très simple, c'est que la sexualité, c'est un espace des pratiques individuelles et c'est aussi une manière de faire des enfants. Et que la question de la descendance, en fait, elle est centrale, la production de famille, qu'elle soit légitime ou illégitime, elle est centrale dans l'organisation de la société. Donc en fait, pour qu'elle soit légitime et conforme aux prescriptions et à l'ordre social qui est pensé, ça implique de la contrôler. Donc ce contrôle-là, on l'observe en fait dans la très 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 longue durée. On observe aussi des formes de contestation et les pouvoirs de contrôle en fait se sont affaibli avec le temps, mais pas de manière linéaire. Vous le disiez, il y a eu des moments, je pense notamment par exemple au sortir de la Première Guerre mondiale, où il y a une, voilà, certes la France fait partie des pays victorieux, mais c'est une saignée démographique, d'abord parce qu'il y a des milliers de soldats qui sont morts, et puis parce qu'il y a aussi toute une série d'enfants qui ne sont pas nés, entre guillemets, du fait de la séparation des couples. Donc il y a un enjeu démographique extrêmement fort, et il y a tout un discours qui consiste à dire que ce conflit est né de la fragilité militaire française, et que si les Français avaient fait plus d'enfants, les Français auraient plus une armée plus forte, plus de soldats, et donc auraient pu davantage affronter les autres belligérants et être victorieux, voire même n'auraient peut-être pas été attaqués. Donc il y a tout un discours en fait qui lie la puissance d'un pays à sa puissance démographique, et au sortir de la Première Guerre mondiale, et bien dans ce cadre-là, on va mettre en place, les législateurs, qui sont tous des hommes à l'époque, vont voter des textes qui vont durcir la législation autour de l'avortement, qui est un crime, mais qui devient davantage défini et encadré, et puis aussi tout ce qu'on appelle la propagande anticonceptionnelle, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'information sur la contraception. C'est-à-dire que informer, éditer une brochure, donner une conférence, donner des objets, etc., tombe sous le coup de la loi. Et les condamnations, en fait, elles sont importantes. Et cette loi, qui première est votée en 1920, va rester en vigueur, en fait, jusqu'à la fin des années 60, avec des épisodes. Et la dernière en date, c'est le 1979, le moment où la loi Veil, qui autorise l'avortement, qui devient l'interruption volontaire de grossesse, donc est autorisée de manière légale et pérenne en France. Donc finalement, ça a duré dans le temps, ce cadrage-là, mais ce sont des questions qui se posaient aussi avant.
Alors il faut dire que le livre, il parcourt donc une période qui est très longue, en passant par le Moyen-Âge, où certains stéréotypes sont déconstruits, puisqu'on y parle d'une relative liberté dans le champ de la sexualité. Vous, Fanny Bunion, vous vous êtes penchée sur la période du 19e et du 20e siècle. Peut-être continuer un peu sur les particularités de cette époque-là. Il est question d'un double standard masculin.
Il y a un double standard sexuel, effectivement, en direction des hommes. Le mariage est l'horizon d'attente quasi exclusif, hein, pour les hommes comme pour les femmes, mais avec des prescriptions qui consistent à enfermer les femmes, globalement, hein, c'est le modèle bourgeois qui va se diffuser, le modèle de loi blanche, dans l'absence de connaissances, hein, le tabou, le secret, le silence, et puis la découverte, parfois traumatisante, dans les récits qui peuvent exister de la sexualité via la nuit de noces, qui est une sexualité généralement brutale, parfois imposée, parfois douloureuse, parfois heureuse. Hein. Voilà, en tout cas, le sceau du secret, du silence et du tabou l'entoure. Alors que pour les hommes, il y a l'idée que les hommes doivent s'initier pour initier ensuite les femmes. Donc c'est pour ça qu'on parle de double standard, c'est-à-dire que il y a un double standard entre les femmes et les hommes, mais pour les hommes, il y a aussi un double standard, c'est-à-dire être un bon père, un bon mari, un bon époux, mais tolérer les expériences sexuelles en dehors du mariage, notamment le recours à la prostitution, par exemple, quand les prostituées et ES sont, elles, considérées comme des filles de mauvaise vie par ailleurs. Donc il y a, voilà, un double discours, un double standard pour les hommes, mais aussi entre les hommes et les femmes.
Une question peut-être sur le sujet des VSS, les violences sexistes et sexuelles, qui sont aujourd'hui un sujet au moins dont on parle, même si l'égalité n'est pas du tout atteinte et qu'il y a encore peu de condamnations dans ce champ-là. Les violences sexistes et sexuelles, il y a quand même une forme de bascule dans la période que vous étudiez, puisque c'est au XVIIIe siècle qu'on abandonne le terme de rapt pour parler de crimes de viol. Il faudra encore beaucoup d'années pour vraiment qu'il y ait une définition du viol.
Effectivement, le cas du viol est très intéressant parce que jusqu'en 1791, date auquel est établi le premier code pénal français, qui homogénéise les pratiques sur tout le territoire, et dans une perspective qui est une justice laïque, une justice civile, d'État en tout cas, le crime de viol fait son entrée, et la grande rupture, c'est que on va considérer que le crime de viol est un crime contre les personnes qui font l'objet de ce crime. Alors qu'auparavant, le terme qui était utilisé était le terme de rapt, qui est un terme plus générique, qui désigne aussi ce qu'on appelle le viol aujourd'hui, mais qui peut aussi désigner le fait d'être soustrait à sa famille, et le rapt pouvait être aussi un moyen d'échapper à un mariage décidé par la famille auquel une jeune fille voulait se soustraire. Donc c'est un terme un peu large. Et puis surtout, le terme de rapt, il est pensé comme un crime contre l'intérêt des familles. C'est-à-dire qu'on va passer, avec la Révolution française, d'un sujet de droit qui est la personne victime en elle-même, enfin en tout cas c'est ce sujet-là qui advient, alors qu'auparavant on considérait qu'on portait atteinte à l'honneur des familles puisqu'on utilisait, on déflorait une femme, et avec cette idée que les femmes n'étaient forcément nécessairement vierges au mariage, qui est aussi un mythe, mais on utilisait en tout cas ce crime de rapt pour défendre les intérêts d'une famille qui serait lésée parce que sa fille vaudrait moins sur le marché matrimonial.
Peut-être s'arrêter sur un document, puisqu'ils sont nombreux dans cet ouvrage dont je peux redonner le titre, Le sexe interdit, la sexualité des Français et sa répression, qui est paru en 2022. 70 documents à découvrir entre les pages de ce livre. On remonte un tout petit peu avant la période que vous étudiez, c'est au XVIIe siècle, il y a donc des procès pour impuissance, et vous en avez trouvé des preuves là dans vos recherches.
Il y a énormément effectivement de dossiers pour ces procès pour impuissance. Alors, ça, il se déroule dans un cadre bien particulier. En fait, ces procès pour impuissance visent à annuler un mariage. Il faut savoir que avant la Révolution française, le mariage est indissoluble, puisque c'est l'Église qui a vertu d'état civil, et donc à ce titre-là, considère qu'un mariage ne peut pas être rompu, sauf si on le fait annuler. Et pour pouvoir le faire annuler, il faut prouver qu'il a, je mets des guillemets parce que c'est une expression un peu désuète, mais qu'il n'a pas été consommé. Donc, si une femme veut se séparer de son mari, elle doit pouvoir prouver qu'il n'est pas capable d'avoir un coït avec elle. Et donc que la finalité du mariage, qui est la procréation, la perpétuation de la famille, ne peut pas advenir. Donc on a des procédures qui consistent à des déclarations, mais aussi à des épreuves pratiques, alors pas en public. Mais il y a dans l'enceinte des tribunaux, dans certains tribunaux, une salle qui est utilisée pour les travaux pratiques, entre guillemets, c'est-à-dire on va demander à un couple qui souhaite se séparer de prouver qu'il n'en est pas capable avec examen médical, vérifier qu'un homme est capable d'avoir une érection ou pas, d'avoir une éjaculation ou pas, etc. Donc on a effectivement cette procédure qui est la seule qui permettent de casser une union.
Un monde passionnant à découvrir dans un livre que vous avez coécrit avec Pierre Fournier. Dernière question, quel écho un tel travail trouve-t-il là aujourd'hui en 2024 ? L'occasion de redire que les agressions homophobes sont en hausse, que le débat autour du consentement est vif, que les gouvernements appelaient récemment au réarmement démographique, ou encore que des menaces pèsent toujours sur l'IVG. Le sexe est partout autour de nous. Votre travail d'historienne permet d'éclairer les débats actuels.
Il y a une grande rupture. La grande rupture, c'est le fait de pouvoir dissocier légalement la sexualité de la procréation. C'est l'énorme rupture des années 1960-1970 qui transforme du coup complètement le rapport à la sexualité, à ses enjeux et à ses conséquences. Mais il n'empêche que la sexualité, en particulier la sexualité des femmes et le corps des femmes d'une manière générale, reste l'objet de convoitises, appropriations, on peut utiliser toutes sortes de termes, en tout cas que les femmes ne possèdent pas, ne sont pas libres de posséder leur corps et leur sexualité au même titre que les hommes au regard des agressions et des violences sexistes et sexuelles qui demeurent, et puis aussi des représentations culturelles ou des discours médiatiques continue à utiliser certains termes. Par exemple, si je prends, alors c'est un gros mot, mais je vais me permettre, si on prend le mot salope et le mot salaud, c'est la même racine, la connotation sexuelle, elle n'apparaît pas dans le mot salaud, alors qu'il est extrêmement prégnant dans le mot salope, par exemple. Et ça fait un pont avec les marches des salopes, les fameuses marches des salopes qu'on a pu voir, notamment aux États-Unis, de femmes qui défilent en disant qu'elles sont libres de s'habiller, de marcher, de faire ce qu'elles veulent, quelle que soit l'heure.
On vous remercie, Fanny Bunion. Vous êtes donc historienne, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, en études sur le genre à l'Université Rennes 2, et on vous retrouvera demain pour un mardi de l'égalité sur le campus de l'Université Rennes 2. Les mardis de l'égalité, c'est ce cycle de conférences mensuelles qui porte sur le sujet de l'égalité, et souvent de l'égalité entre les hommes et les femmes. Le rendez-vous est donné mardi 30 janvier à partir de 18h au Tambour. C'est aussi une conférence à retrouver en replay sur le site lairdu.fr, et en plus, c'est gratuit. Pour plus d'infos, il y a le site internet culture.service.unif-rn2.fr. Vous retrouverez ça en tapant ça dans un moteur de recherche. Et vous avez choisi un morceau qu'on va écouter, Fanny. Pourquoi celui-là ?
C'est un morceau de Nina Simone ou Les questions de liberté. Thank you.
it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing to live. I wish I could do all the things that I can do, though I'm way overdue. I'd be starting anew. Like a bird in the sky, how sweet it would be if out my heart I could fly. I'd soar to the sun and look down at the sea. Then I'd sing, 'cause I know yet. And I'd sing, 'cause I know yet. Then I'd sing.
C'était Nina Simone sur Canal B, que vous écoutez sur le 94.0 avec le morceau « I wish I knew how it would feel to be free ». Vous êtes sur Canal B. Vous avez sans doute remarqué des choses bizarres à l'antenne. Je voulais de l'imprévu en animant mon émission en direct. C'est arrivé. Le lecteur ne voulait pas passer mon morceau de Nina Simone. Il a finalement obtempéré pour écouter le morceau choisi par Fanny Bunion, l'invité qu'on vient de recevoir en studio. Un hymne composé pour le mouvement des droits humains aux États-Unis dans les années 60. Vous écoutez l'arène pour l'instant sur le 94.0. Vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur canalb.fr, un site où vous pouvez par ailleurs retrouver l'ensemble des émissions réalisé par des salariés mais aussi par de nombreux bénévoles. On poursuit cette émission en direct avec le reportage du jour. Et direction Bru, tout près de Rennes, sur un rond-point où il y avait du monde vendredi 26 janvier. Dans le contexte de mobilisation du monde agricole en cours depuis plus de 10 jours, la Confédération paysanne bloquait la circulation à quelques pas de la MSA, la Mutualité sociale agricole, et de bâtiments aussi du groupe agroalimentaire Avril. Leur analyse du mouvement social, elle est bien différente de celle de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Une mobilisation où, pour info, on a pu apercevoir Mathilde Panot et d'autres députés du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Mais là, ce que vous allez surtout entendre, ce sont les premiers concernés, les agriculteurs. Reportage.
Alors, on est réunis aujourd'hui et on a choisi symboliquement ce rond-point ici parce que c'est un rond-point avec un carrefour où il y a le SPAS qui se déroule tous les ans en fait, et c'est un événement quand même assez important pour le monde agricole et qui représente aussi beaucoup de gens, le para-agricole, qui quand même vit grâce à nous paysans et se nourrit quand même assez grassement sur notre dos et n'hésite pas à augmenter leur prix quand nous, on n'a aucun moyen de maîtriser nos coûts de production surtout. Charlotte Carglenou, je suis paysanne installée en vache laitière en Ille-et-Vilaine, à côté de Vitré, et porte-parole de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine. C'était aussi important de faire entendre la Confédération paysanne dans un moment aussi difficile que maintenant et qui dure quand même depuis des mois, parce que nous, on est sur le terrain, et ce, depuis des mois. Il ne faut pas oublier de le redire, en fait. Même si on n'a pas toujours la visibilité qu'on voudrait avoir, on existe, on est bien sur le terrain, et on veut des paysans nombreux et nombreuses, en fait.
Donc Stéphane Gallet, paysan en Ille-et-Vilaine, mais aussi secrétaire national en charge de l'élevage. La particularité de la mobilisation là, elle a lieu dans le 35, mais elle est en concomitance avec le colloque élevage, qui est un colloque national. On était 170, donc derrière moi, il y a des paysans d'Ille-et-Vilaine, mais il y a aussi des paysans qui viennent de toute la France. Donc on était sur un temps de réflexion, on va dire un temps un peu froid, et qui était très très en lien avec l'actualité et ce qui se passe sur la mobilisation, parce qu'il ne vous a pas échappé que la mobilisation, elle est partie quand même du sud-ouest, et qu'elle est très liée aussi aux difficultés de revenus subies par les éleveurs, et aussi des difficultés sanitaires avec la MHE en particulier.
MHE pour maladie hémorragique épizootique.
On m'a dit que c'était vous qu'il fallait que je vienne voir pour un peu revenir sur les conclusions du colloque, donc sur le thème de l'avenir de l'élevage, c'est ça ?
Ouais, pas vraiment. On a fait un colloque pour avoir des réflexions sur l'élevage paysan, au sens large en fait. On l'a construit en deux temps, une première journée avec beaucoup d'intervenants, anthropologues, chercheurs, éthologues, pour interroger nos pratiques, pour interroger nos savoir-faire paysans, sur l'élevage en particulier, pour interroger aussi des questions un peu aiguës dans la société sur la mort des animaux, par exemple. Et le deuxième temps, c'était de se nourrir un peu de tous ces échanges pour construire une réflexion collective, quoi, une pensée collective et aussi un plaidoyer syndical pour l'élevage paysan.
Comment il se distingue cet élevage paysan ? Est-ce que c'est par une attention particulière pour l'humain et puis pour le vivant, on pourrait le dire comme ça ?
Oui, ça en fait partie, bien sûr. Mais c'est surtout un projet politique qui s'inscrit dans le cadre de l'agriculture paysanne. Ce projet politique de l'agriculture paysanne, on le porte depuis les années 90, après la naissance de la Confédération paysanne, où on a choisi de porter un projet de société qui a plusieurs thématiques en fait dans sa charte, comme le respect de la nature, mais aussi la transmission des fermes, mais aussi la solidarité dans les campagnes, mais aussi respecter que notre agriculture ne fasse pas de dommages dans les pays extérieurs, chez les collègues paysans de partout dans le monde. Enfin, tout ça a une approche très globale en fait, macroéconomique, mais à la fois aussi dans les pratiques, dans nos relations aux animaux, d'être le plus proche effectivement de leur bien-être, de leur comportement, etc.
Comment vous viviez là ce moment-là où sont quand même mises en lumière les revendications d'agriculteurs, alors plutôt à travers le syndicat majoritaire qu'est la FNSEA? Il y a des annonces qui vont arriver dans la soirée, sans grandes attentes, j'imagine, de votre côté. Comment vous vivez ce moment-là ?
En fait, on comprend. Hein, nous, ça fait longtemps que ça couve, on sait. Et puis, on le vit hein, physiquement et concrètement dans nos fermes, les difficultés de revenus, en fait, qui sont liées à plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des coûts de production, mais aussi les déficits de vente pour la filière bio, par exemple. On connaît aussi l'absence d'égalité de répartition de la PAC, en fait. Il y a 80% de la PAC qui est dirigée vers 20% des agriculteurs. Donc forcément, ça fait des disparités de revenus dans les campagnes et dans les fermes. Donc les difficultés, elles sont pratiquement épidermiques pour les éleveurs. Voilà, c'est pour ça que c'est démarré du sud-ouest. Hein. Et puis, face à ces difficultés de revenus aussi, il y a toutes les difficultés qui sont liées aux crises sanitaires, au changement climatique. Donc ça fait une espèce d'effet de ciseau. Ça, on le connaît, on l'a bien perçu, on l'a bien identifié. Donc la colère, on la comprend. Par contre, le discours de la FNSEA en particulier, les réponses apportées sur les ronds-points par ce syndicat majoritaire en particulier, mais aussi par la Confédération rurale.
Qui cible avant tout l'Europe et les écologistes.
Ouais, c'est plus que facile en fait, c'est presque populiste en fait, parce que là ils se trompent complètement dans l'analyse qu'ils font de la situation. C'est pas que non plus innocent, hein. Ça continue sur la politique qu'ils mènent depuis 50 ans en fait, c'est de pousser la compétition entre les paysans pour augmenter la production et que ça soit capté par l'agro-business en fait. C'est ça qui est défendu. Nous, ce qu'on dit, c'est tout l'inverse, en fait, c'est de partager, c'est de répartir, de faire en sorte que chacun puisse vivre correctement dans ses fermes. Quoi.
Est-ce que vous sentez qu'il est possible que certains paysans finissent par se laisser convaincre par vos arguments ? Est-ce qu'il y a une porosité entre les syndicats
Là, c'est le moment. En fait, je pense que c'est le moment qu'on se mobilise. Est-ce que c'était un peu le mot d'ordre de la Confédération paysanne, hein, c'est de dire, on va à la rencontre aussi de nos collègues. C'est leur moment aussi de porter, en fait, notre analyse globale, en fait, de la situation et d'essayer de cibler en fait les réalités qui font que les paysans et les paysannes ont des difficultés à vivre quoi. Et ce qui les broie réellement, c'est vraiment ce carcan libéral en fait. C'est pas le fait qu'on soit contraints par des surnormes environnementales qui sont pour certaines censées nous protéger en premier en fait. Ça c'est quelque chose qu'il faut dire en fait. C'est nous les premières à pâtir des changements climatiques, de la perte de biodiversité, etc. Donc ça, nous, on ne va pas revenir là-dessus, en fait. Les normes, elles sont nécessaires.
On peut donner un exemple de normes environnementales, par exemple sur les jachères, le pourcentage de jachères
Oui, mais le pourcentage de jachères, il représente très peu, en fait, sur la surface totale. Et c'est pas un enjeu, quoi. Enfin, c'est une espèce de pantin qui est animé pour détourner l'attention des vraies problématiques. Ça, pour le coup, c'est pas une vraie norme environnementale contraignante, quoi. Je pense que la réduction des phytos, ça s'est vécu comme durement, parce que ça demande à réfléchir sur les alternatives quoi, et engager un vrai changement et une vraie direction quoi. Mais pour nous ça, c'est des choses qui vont plutôt dans le bon sens en fait. Nous on s'est battu d'ailleurs pour un appui sur les mesures agro-environnementales. Ça a été une grosse bagarre syndicale et on a obtenu ça, mais on va dans ce sens là en fait. Donc aussi je pense que est mis dans le paquet des normes environnementales le fait du contrôle de l'irrigation avec les bassines, enfin le contrôle des réserves d'eau. Et ça, nous, on dit que c'est pas quelque chose contre quoi il faut se battre, en fait. On est pour contrôler l'irrigation, mais on n'est pas pour construire des bassines, des rétentions. On sait qu'elles bénéficient aux plus gros et à très peu d'agriculteurs.
Choisis le bot, co-porte-parole de la Confédération Paysanne Bretagne. Nous, on comprend, on partage la colère et la lassitude des collègues paysans-paysannes. Et on refuse aussi que le discours dominant nous fasse devenir des ennemis avec les collègues des autres syndicats. On sait que la destruction des conditions de vie des paysans et des paysannes, comme la destruction des écosystèmes, profite aux mêmes personnes. Donc c'est pour redire que supprimer les normes environnementales reviendrait à mettre la poussière sous le tapis et attendre que la crise explose encore plus gravement. Cependant, les paysans et les paysannes ne peuvent pas s'engager dans la transition agroécologique sans un soutien de l'État. Et là, on revient sur le sujet des MAEC. Le dossier des MAEC débouche favorablement en Bretagne grâce, il faut le dire, à une mobilisation historique de la Confédération paysanne et de ses partenaires, les CIVAM, la FRAB, Race de Bretagne, Eau et Rivière de Bretagne et tous les soutiens associatifs et citoyens.
Les CIVAM, ce sont les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. La FRAB, c'est la Fédération régionale des agrobiologistes de Bretagne.
C'est bien une victoire de nos réseaux. Et aujourd'hui, donc, l'État s'est engagé à accompagner en Bretagne pendant 5 ans près de 3000 fermes qui ont contractualisé un cahier des charges exigeant en faveur de pratiques plus respectueuses de l'environnement et biologique. Donc des contrats pour augmenter des surfaces en prairie, pour réduire et supprimer les engrais et produits phytosanitaires et de synthèse, des contrats pour favoriser la biodiversité animale et végétale, pour maintenir le bocage, préserver la fertilité des sols et la qualité et quantité de l'eau, qui sont les premiers alliés de notre travail de paysan. Alors voilà une victoire, mais à quel prix? À combien de manifestations en sommes-nous? Combien de coups de téléphone? Combien de communiqués de presse? Combien de réunions? Pour des contrats que les paysans avaient signés au 15 mai, pour des contrats sur lesquels les paysans s'étaient engagés à des changements de pratiques, pour lesquels l'État n'était pas au rendez-vous. Alors, une victoire, certes, mais ceci dit, l'État ne peut pas avoir de discours contradictoire. Si la transition agroécologique est vraiment indispensable pour lui, si effectivement le maintien de paysans nombreux et rémunérés sont des finalités importantes du gouvernement, au-delà des mots, on l'attend au rendez-vous en termes d'accompagnement technique, de recherche, de formation et de soutien aux services rendus par les paysans.
Moi, je suis installée sur une ferme collective depuis 17 ans, sur une ferme en polyculture élevage. Il y a du maraîchage, un verger, un élevage de biches et de cerfs pour la viande et un atelier pain, voilà, et de l'accueil pédagogique et social. Donc là, on est sur le rond-point de la zone de Kerlan, sur Bru, voilà, où on s'est rassemblés pour faire entendre notre voix. Alors symboliquement, un rond-point, pourquoi? Parce que c'est arrêtons de tourner en rond, changeons de voix. Et parce qu'on a autour à la fois la MSA.
MSA pour Mutualité Sociale Agricole.
Bon, avec qui quand même on fonctionne au quotidien. Et puis le groupe Avril, McDonald's, voilà, qui sont plutôt des symboles pour nous d'un développement de l'économie ultralibérale où les paysans sont perdants.
Groupe où l'actuel président de la FNSEA a des fonctions au sein du groupe Avril.
Oui.
On se retrouve là donc sur un point presse, notamment à destination de la presse. Au départ, ça devait se passer sur une ferme pas très loin à Chartres de Bretagne parce qu'il y a un colloque qui était organisé au même moment, jeudi et vendredi. Voilà, dans la prise de parole là, qui a été faite, il y a finalement des revendications qui sont portées depuis longtemps par la Confédération paysanne, qui ne sont pas les mêmes que le syndicat majoritaire qu'on entend le plus dans les médias principaux. Je voulais vous demander comment vous perceviez ce discours de la FNSEA, qui est le plus relayé sans doute, et la réponse du gouvernement. J'ai l'impression un peu d'une hypocrisie générale, où on semble découvrir un résultat qui est le produit de politique menée depuis longtemps.
Ben oui, on ne peut que constater que voilà, aujourd'hui, si les paysans et paysannes sont dans la rue, c'est bien parce que c'est un échec de la cogestion. Et la cogestion, on le sait, c'est un travail main dans la main et du gouvernement et du syndicat majoritaire. Sauf qu'on espère juste qu'ils fassent la bonne conclusion, à savoir que si on est tous dans la rue, c'est bien parce qu'en fait, leurs politiques ont échoué. Et donc, il peut y avoir des stratégies, des têtes de syndicats. Moi, je suis désolée, le président de la FNSEA, qui est quand même fortement impliqué dans ses responsabilités dans le groupe Avril, moi, ça me questionne sur à quel enjeu, à quel intérêt il répond. Voilà. Est-il quelqu'un qui défend encore les paysans et paysannes? J'en doute.
Est-ce que le dialogue est encore possible entre la Confédération paysanne, les paysans et les agriculteurs intensifs? On a l'impression d'entendre deux voix alors, qui se rejoignent sur la question des revenus, qui est centrale, mais assez divergentes sur un tas d'autres sujets.
Ah ben moi, je pense que le dialogue est possible. Le dialogue est possible dans les campagnes entre voisins, entre paysans et paysannes sur le terrain. Voilà. Après, c'est clair que sur les responsables syndicaux, non, on peut tenter d'avancer ensemble, mais il y aura forcément des points sur lesquels on sait qu'on divergera trop pour pouvoir s'entendre.
Ma dernière question, c'est de vous demander à quoi ressemble votre vie à vous sur votre ferme aujourd'hui.
Donc moi, je suis installée depuis 17 ans sur une ferme de 34 hectares en bio, dans le cœur du Morbihan. Aujourd'hui, on est 4 associés. Il y a une salariée à temps plein, un salarié partagé avec d'autres fermes. Et donc, moi, mon quotidien, c'est un quotidien qui est bien chargé en heures de travail sur la ferme, mais où le fait d'être à plusieurs et sur des activités où on tire une certaine valeur ajoutée nous permet d'avoir des activités qui ont du sens pour nous à côté, comme le fait, là, moi, d'être présente 2 jours sans forcément être remplacée à ce colloque sur l'élevage paysan.
Et vous vous portez comment? Vous avez été touchée par la crise de l'agriculture biologique, conséquente notamment de la crise sanitaire, de la guerre en Ukraine, etc.
Alors oui, on a quand même été touchés. Nous, on est dans un secteur où quand même le porte-monnaie n'est pas des plus élevés. Et on voit bien que les gens ont fait attention. Alors en même temps, les gens sont conscients que quand ils viennent acheter chez nous, c'est peut-être parce qu'on est bio, mais c'est aussi parce qu'on est locaux. Et donc, ils savent qui ils font vivre. Et donc, ils sont conscients de ça. Donc, ils font aussi parfois des choix peut-être d'acheter un peu moins et de continuer à venir chez nous. Et il y a aussi ceux qui disent, mais en fait, il faut qu'on arrête d'acheter trop de produits transformés. Parce qu'en fait, notre budget est grévé et peut-être qu'on va davantage venir chez vous à la ferme et plus faire de la transformation. Mais c'est vrai qu'on a senti quand même cet impact-là. Donc de la part des consommateurs, mais avec des réflexions qui nous semblent tout à fait entendables, parce que nous aussi, on est consommateurs. Et puis, à un autre niveau, on a été touchés aussi par l'augmentation des charges, voilà, qui ont pesé forcément sur la marge faite dans nos activités.
Sur le sujet des normes, comme vous êtes inscrite dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, vous avez sans doute un regard particulier là-dessus. On a pas mal parlé là, notamment du pourcentage de jachère qui est imposé maintenant par l'Union européenne. Vous, ces normes-là, elles vous pèsent?
En fait, la question des normes, c'est plus est-ce qu'elles contraignent, voilà, et elles mettent en difficulté des gens dans leur travail et leurs revenus, et aussi dans les enjeux auxquels il faut répondre, à savoir les enjeux environnementaux, ou est-ce qu'elles protègent? Et donc, ce n'est pas un pour toutes les normes ou un contre toutes les normes, c'est de réinterroger en fait à quoi elles servent et qui elles servent.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Laurence Marandola, moi je suis paysanne en Ariège. et porte-parole de la Confédération paysanne. Donc effectivement, on rejoint les collègues de Bretagne pour en faire un moment national aussi au cœur de cette période de mobilisation. C'est extrêmement important pour la Confédération paysanne, c'est pas une surprise, cette colère qui s'exprime massivement de la part des agriculteurs. La lecture qu'on en fait, c'est que les causes, c'est cette difficulté majeure de pouvoir vivre de notre travail. On parle bien de rémunération de notre travail qui s'est amenuisée au fil du temps, qui est très, très inégale dans le monde agricole. Certains agriculteurs tirent très bien leur épingle du jeu, mais on voit bien l'extrême difficulté de beaucoup d'entre nous. Et ces difficultés, elles sont l'aboutissement de décennies de politiques qui s'appliquent à l'agricole. D'une part, les politiques macroéconomiques, la libéralisation de l'économie qui a livré l'agriculture et l'alimentation aux lois du marché, à l'extrême libéralisation. Ce qui fait que les paysans sont en concurrence les uns contre les autres. C'est vrai sur des territoires très proches. C'est vrai entre agriculteurs français, c'est vrai à l'échelle entre agriculteurs des pays européens et au-delà. Et la concurrence, elle fait qu'on cherche toujours à mettre sur le marché des produits à plus bas prix. Ça oblige à s'agrandir, à simplifier les parcours, à s'hyper spécialiser. Et finalement, en France, c'est des fermes qui s'agrandissent et qui mangent celles de leurs voisins.
Retour en studio, toujours sur Canal B, et on va poursuivre et terminer cette émission avec la recommandation du jour. C'est à chaque fois en fin d'émission des conseils modestes de podcasts, de documentaires, mais aussi de lectures, souvent d'événements à vivre dans la région rennaise que je n'ai pas le temps d'annoncer plus amplement. Aujourd'hui, eh bien, on reste sur le sujet agricole auquel on a consacré un reportage et on annonce une rencontre avec l'auteur de Silence dans les champs, j'ai nommé Nicolas Legendre. On le redit pour ceux qui sont passés à côté, ce journaliste de la région rennaise a reçu le prix Albert Londres pour son enquête sur le modèle agro-industriel breton et puis sur les menaces qui pèsent sur ceux qu'il critique. Un livre qu'il faut relire particulièrement en ce moment pour comprendre la crise traversée par les agriculteurs depuis un moment. Et puis pour rencontrer Nicolas Legendre, eh bien ça se passe mardi 6 février à 20h au cinéma Le Triskel du côté de Béton. Un système agricole à bout de souffle, quelle solution? C'est la question qui sera posée également en compagnie de Catherine Darrault. Elle est sociologue et ingénieure agronome et puis elle enseigne à l'Institut Agro-Rennes-Angers. Ce rendez-vous, il est organisé par le collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest qu'on vous donne régulièrement à entendre sur les ondes de Canal B et c'est un événement à participation libre.
La période d'enquête à plein temps pour le livre, c'est 2021 à 2023, donc c'est 2 ans à temps plein. C'est beaucoup, mais en même temps, ça n'aurait pas été suffisant s'il n'y avait pas eu ces 5 années qui avaient précédé, pendant lesquelles j'étais correspondant du Monde en Bretagne, et durant lesquelles j'ai traité des questions agricoles au fil de l'eau, au fil de l'actualité. Ça m'a permis de me familiariser avec un certain nombre de sujets, parfois techniques, et puis aussi de rencontrer des paysans, en fait, beaucoup. Aussi en travaillant en tant que pigiste, toujours pour Breton en cuisine, où là je faisais des reportages chez des producteurs, en fait, des gens qui sont dans des modèles un peu à rebours, dans des choses très qualitatives. Donc en fait, je suis entré dans des fermes, beaucoup, et j'ai rencontré beaucoup de paysans, et ça m'a permis d'avoir un certain nombre de contacts, et puis de sentir aussi ce qui est l'un des points de départ du livre, savoir l'espèce de grand burn-out dans le monde paysan, ce malaise, cette perte de sens qui est exprimée.
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.